Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Charline Dupiot.
Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous parlons d'un sujet tabou. Les crises d'hémorroïdes, saignements, démangeaisons, sensations de brûlure, douleurs. Les symptômes sont nombreux, causés par la dilatation anormale des veines autour de l'anus et du rectum. Les crises d'hémorroïdes sont plus fréquentes qu'on l'imagine. Elles touchent aussi bien les hommes que les femmes, notamment après une grossesse. Une personne sur deux en souffre, un jour ou l'autre. Alors, quels sont les symptômes qui doivent nous alerter? Quel traitement en cas de crise? Quelle prise en charge est possible et comment éviter de nouvelles poussées? On parle de toutes ces questions avec le professeur Patrick Atienza. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de proctologie médico-interventionnelle au sein du groupe hospitalier Diaconesse Croix Saint-Simon à Paris. Nous serons également un peu plus tard dans cette émission en ligne avec le professeur Mohamed Ayé, hépato-gastro-entérologue au CHU de Nouakchott en Mauritanie et professeur à la faculté de médecine de Nouakchott. Alors si vous avez envie de participer, de témoigner, de poser vos questions, la parole est à vous au 33 1 84 22 75 75. 33 1 84 22 75 75. Vous n'hésitez pas non plus à nous écrire sur notre page Facebook. On attend vos messages. Et en fin d'émission, nous allons évoquer les rencontres Africa qui ont débuté hier au Palais des Congrès à Paris. Cette troisième édition 2018 se penche sur le marché de la santé, notamment la santé numérique en Afrique. Et pour parler de ces rencontres, nous joindrons le docteur Franck Mansour Adeoti, directeur du Bureau Régional Afrique au sein du Réseau International pour la planification et l'amélioration de la qualité et de la sécurité dans les systèmes de santé en Afrique.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Patrick Atienza, d'abord pour commencer, de quoi parle-t-on quand on parle d'hémorroïdes?
Voilà, c'est une très bonne question parce qu'il y a beaucoup de confusion dans l'esprit des gens. Alors déjà, les hémorroïdes, c'est une formation naturelle. Tout le monde a des hémorroïdes chez les humains.
On en a tous, ça fait partie de notre anatomie.
Donc dire avoir des hémorroïdes, c'est comme si vous disiez j'ai des tympans, c'est intéressant, mais ça va pas bouleverser le savoir humain. En revanche, quand on a une maladie hémorroïdaire, on peut soit saigner de ces hémorroïdes, soit avoir des caillots qui se forment dans les hémorroïdes, c'est classiquement la crise hémorroïdaire, soit avoir des hémorroïdes internes, parce qu'il y a deux réseaux internes et externes, qui sont particulièrement importantes et qui se prolabent et qui sortent du canal anal et créent des désagréments.
Donc on a des hémorroïdes internes et externes.
Tout à fait. On a des hémorroïdes internes qui sont recouverts par de la muqueuse qui n'est pas sensible à la douleur et des hémorroïdes externes qui sont recouverts par de la peau.
Donc évidemment, externe à l'extérieur de l'anus.
Voilà, qu'on voit à l'extérieur de l'anus. Évidemment, les traitements vont être différents parce qu'on pourra faire des traitements sur les hémorroïdes internes, comme il n'y a pas de douleur, ce sera des traitements parfois un petit peu agressifs, les gens ne souffriront pas, tandis que sur les hémorroïdes externes, comme c'est de la peau qui les recouvre, on sera beaucoup plus doux et beaucoup plus soft.
C'est en général plus douloureux pour les hémorroïdes externes?
Alors, non, quand vous avez une poussée hémorroïdaire, c'est-à-dire quand vous avez des thromboses hémorroïdaires, généralement vous n'avez pas que des thromboses dans les hémorroïdes internes ou les hémorroïdes externes, mais parfois dans les deux. Et une grosse poussée d'hémorroïdes internes peut être particulièrement douloureuse parce qu'elle déborde un petit peu sur cette zone sensible.
Et quels peuvent être les symptômes de ces crises d'hémorroïdes?
La crise hémorroïdaire, c'est un des trois symptômes, c'est-à-dire un caillot qui se forme, ça déforme généralement la marge anale. S'il y a plusieurs caillots, vous aurez plusieurs déformations. Et c'est extrêmement douloureux parce que vous avez un œdème autour du caillot qui se crée en quelques heures ou même parfois quelques dizaines de minutes. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez avec une douleur très vive, une brûlure, une douleur tout de suite en plateau et qui est assez difficile à gérer, une brûlure assez pénible. Oui.
Parmi les causes évoquées, on parle notamment de constipation chronique, d'efforts de poussée répétés ou même du fait de rester longtemps assis. Qu'en est-il?
Alors, pour les crises hémorroïdaires, c'est-à-dire les thromboses hémorroïdaires, c'est-à-dire les caillots qui sortent des hémorroïdes, les causes sont multiples. Il y en a qu'on ne connaît pas très bien, parce qu'on sait que les femmes enceintes, notamment, peuvent avoir des thromboses dans les hémorroïdes internes et externes, soit pendant en fin de grossesse, soit après l'accouchement. Et puis, vous pouvez aussi avoir des thromboses hémorroïdaires quand il y a des troubles, notamment du transit, soit des diarrhées importantes, soit des constipations importantes. Et puis, surtout, vous avez un facteur qui est souvent un petit peu fantôme, mais qui existe indéniablement, c'est le stress, c'est-à-dire des gens en période de grand stress peuvent avoir des thromboses hémorroïdaires qui se déclenchent.
Et c'est une pathologie qui est encore taboue en France ?
C'est une pathologie taboue parce que sous le vocable hémorroïde se cache en réalité toutes les pathologies de l'anus. On sait que les hémorroïdes, c'est quelque chose de douloureux, mais dans l'inconscient collectif, c'est pas grave. Et en réalité, derrière le vocable hémorroïde, si vous n'êtes pas examiné par un médecin qui a le matériel pour vous examiner, vous pouvez cacher des tumeurs, vous pouvez cacher des abcès, vous pouvez cacher des fissures ou des problèmes dermatologiques qui n'ont rien à voir avec les hémorroïdes.
D'où l'importance de consulter.
C'est fondamental.
C'est
une région non seulement cachée sur le plan, je dirais, de l'esprit, mais cachée aussi au niveau corporel. Et il ne faut pas hésiter à aller voir un proctologue ou un gastro-entérologue qui rétablira un diagnostic souvent.
Alors, vous pouvez nous appeler si vous vous sentez concerné, si vous avez des questions à poser à notre invité, le professeur Patrick Atienza, au 33 1 84 22 75 75. 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Bonjour Mac.
Bonjour.
Vous êtes à Accra, Mac, on vous écoute.
Ok, bonjour. C'est vraiment un plaisir pour moi de participer à l'émission. Je me sens vraiment concerné par le sujet. Alors, il y a environ 3 ans, j'ai constaté qu'il y avait du sang dans mes selles après un passage difficile et... Cela a été suivi de douleurs très intenses qui ont duré quelques jours. Bon, mais c'est un sujet que je ne voulais pas forcément en parler avec les gens et surtout pas à l'hôpital. Et je me suis dit que c'était juste une simple constipation. Et j'avais juste pensé ajouter plus de fibres dans mon alimentation. Mais cependant, le phénomène s'est répété plusieurs fois et j'avais vraiment honte de parler.
Mais vous n'êtes jamais allé consulter?
Oui, non, je n'ai jamais consulté. Je n'ai jamais consulté. Mais ce que j'ai fait des recherches personnelles sur le sujet et je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs conditions qui avaient les mêmes symptômes. Et ce qui a attiré mon attention sont les hémorroïdes, le cancer du côlon et les fissures anales. Bon, mais jusque-là, je suis dans la confusion parce que je n'arrive pas à vraiment comprendre ce que j'ai. Est-ce les hémorroïdes, cancer du côlon ou les fissures anales, je ne sais pas toujours.
Et depuis 3 ou 4 ans, vous avez eu plusieurs crises, plusieurs poussées?
J'ai eu plusieurs crises et le plus souvent, c'est après un passage de sel. Donc, ça m'est venu tout seul, c'est juste après un passage de sel.
Avec des saignements?
Oui, avec des saignements. Beaucoup de saignements.
Professeur Patrick Atienza.
Oui, bonjour Mac. J'ai bien écouté votre petit discours. Donc, je pense que ce que vous décrivez, c'est-à-dire l'association douleur déclenchée par la selle et saignement, est assez évocateur, non pas d'une pathologie hémorroïdaire, mais d'une fissure anale. Ça, c'est quand même quelque chose...
C'est effectivement l'hypothèse que Max soulevait
voilà,
aussi.
C'est quand même l'hypothèse la plus probable. Alors, une fissure anale, il peut y avoir aussi des pathologies à masque fissuraire, donc il faut quand même avoir absolument un examen. Alors, le cancer du côlon, je crois qu'il faut quand même retirer ça un peu de votre esprit.
Un
masque fissuraire, c'est-à-dire vous pouvez avoir des cancers du canal anal ou des pathologies du canal anal qui peuvent avoir un masque fissuraire, c'est-à-dire que les gens ont des douleurs en allant à la selle, mais c'est pas vraiment une fissure. Voilà, ça peut être autre chose, donc c'est pour ça qu'il faut toujours examiner les gens, éventuellement, si on a un doute, analyser. Mais l'association douleur en allant à la selle, généralement douleur qui est déclenchée par la selle, un petit intervalle libre et puis une douleur qui revient très forte, ça c'est très évocateur de fissure. Parce que le cancer du côlon, il faut bien sûr y penser à partir d'un certain âge, et d'autant qu'on a des antécédents familiaux, mais généralement, c'est un saignement sans douleur anale.
Et comment peut-on traiter Une fissure anale.
Alors une fissure anale, c'est généralement une déchirure. C'est une déchirure dans un anus qui est généralement très serré, très spasmé. Et donc au début, on joue à la fois sur les selles, donc on donne des selles plus régulières si les gens sont constipés. On donne des traitements cicatrisants et puis on donne des myorelaxants pour que cette déchirure puisse se recouvrir d'un tissu qui va la cicatriser.
Donc dans l'idéal, il faudrait que Mac puisse consulter.
Oui, il faut absolument qu'il consulte, parce que si vous laissez une fissure pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, premièrement, elle peut s'infecter. Deuxièmement, il faut savoir si c'est vraiment une fissure, ce qui est le cas le plus probable. Et puis, le traitement de la fissure peut être à la fois médical ou chirurgical. Hein. Si après 3 tentatives, le traitement médical n'est pas suivi de la cicatrisation définitive, il faut pas hésiter à faire des interventions qui marchent remarquablement.
Merci Mac pour votre question. Nous sommes en ligne maintenant avec Ben à Lubumbashi en RDC. Bonjour Ben.
Bonjour.
On vous écoute Ben.
En fait, moi, j'ai expliqué au standard que depuis 14 ans, j'avais constaté quelque chose qui avait poussé juste à côté de l'anus. Ça poussait jusqu'à atteindre, je crois, dans le 5 ou 6 millimètres, quelque chose comme ça. Bon, j'avais négligé à l'époque. Avec le temps, bon, à 20, 22, 23, voire même 25 ans, j'ai constaté des saignements à chaque fois que j'allais au sel. Des saignements, et après le sel, c'est une fatigue intense qui m'obligeait à attendre un petit peu pour reprendre le mouvement et continuer la journée. Alors, tellement que ça saignait, aujourd'hui, je suis marié il y a déjà 10 mois, je constate que ça commence à avoir des répercussions sur ma capacité, je crois, ma virilité.
Ah, vos performances sexuelles.
Donc, exact.
D'accord, c'est effectivement une question qui revient souvent. Et ce que vous nous disiez aussi au standard, c'est que vous êtes chauffeur de taxi, c'est ça? Que vous passez beaucoup de temps assis?
Oui, je suis chauffeur de taxi. Mon boulot m'oblige à être assis de 6h jusqu'à 21h, 22h. Des fois, je mange tard, le matin avant de quitter la maison, je vais prendre un petit pain, une tasse de thé. Et pour manger encore, c'est vers 21h ou 22h.
Et Ben, est-ce que vous avez déjà vu des médecins pour ce problème-là?
En tout cas, pour tout vous dire, je suis même tombé dans ce qu'on dit le désespoir. J'ai vu beaucoup de gens, on me prescrivait des produits, j'en prenais. À un moment, j'ai jugé bon d'arrêter et de faire tomber. Quoi.
Qu'est-ce qu'on vous a prescrit, par exemple? Quel traitement?
Il y a un produit là dont le nom échappe, que j'avais pris 2 ou 3 fois. Et après, j'ai fait recours aux produits traditionnels, les plantes et autres. Là aussi, je crois que ça s'avère inefficace jusque-là.
Et aujourd'hui, vous voulez vous en débarrasser. Professeur Patrick Atienza, qu'est-ce qu'on peut répondre à Ben?
Oui, bonjour Ben. Bah écoutez, alors la notion d'anomalie au niveau de l'anus est un peu floue, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez une tuméfaction, une induration, je pense, d'après ce que vous décrivez, avec des saignements, vous devez avoir un prolapsus muco-hémorroïdaire probablement localisé, et si vous saignez beaucoup, effectivement, vous pouvez avoir une petite anémie qui s'est installée et vous sentir plus fatigué, parce que dans ce cas-là, effectivement, il faut que les globules rouges soient un chiffre normal pour que votre hémoglobine remonte. Voilà, donc si c'est vraiment un prolapsus muco-hémorroïdaire important, ça relève d'un traitement non plus médical, mais d'un traitement instrumental, c'est-à-dire qu'on peut faire au cabinet du médecin, sans anesthésie, ou voire d'un traitement chirurgical, qui est un traitement qui se fait sous anesthésie, en milieu hospitalier ou en clinique. Voilà.
Un traitement instrumental, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, un traitement instrumental, il y en a plusieurs, vous avez essentiellement des ligatures, si c'est les hémorroïdes internes qui sont les plus prédominantes, des ligatures ou des ligatures congélation, du froid, et puis vous avez d'autres traitements comme des injections sclérosantes ou de l'infrarouge qui peuvent diminuer les saignements, mais arriver à un certain stade, et comme ça fait quand même plusieurs dizaines d'années que ce monsieur a ses troubles, je pense qu'on est passé plutôt au stade peut-être chirurgical.
Et alors, Ben évoquait la question des performances sexuelles et l'impact que cela peut avoir sur ces performances-là. Certains auditeurs, effectivement, posent cette question-là sur notre page Facebook. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cela?
Alors, les performances sexuelles, alors, le fait de se sentir bien sexuellement, ça dépend d'énormément de facteurs. Et quand vous avez une pathologie au niveau pelvi-périnéal, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire une infection urinaire, une infection prostatique, un problème au niveau de l'anus, c'est vrai que à ce moment-là, ça perturbe les gens. Mais la relation hémorroïde de corps caverneux n'est pas une relation établie sur le plan anatomique.
On a répondu à vos questions, Ben?
Oui, j'ai encore une petite préoccupation. En fait, je consomme trop de sucre. Est-ce que cela peut avoir un lien?
Ah, la question effectivement de l'alimentation.
Alors, non, le sucre, on n'a pas d'études sérieuses. Consommer trop de sucre, c'est pas très bien, on le sait, mais il n'y a pas de rapport prouvé avec les hémorroïdes. En revanche, la seule chose qui est prouvée scientifiquement, c'est que plus vous augmenterez votre régime en fibres et en végétaux, plus votre maladie hémorroïdaire sera calme et
pour faciliter
et probablement,
le transit.
Voilà, c'est ça, et probablement moins gênante.
Merci, merci beaucoup Ben pour ce témoignage. Nous sommes en ligne maintenant avec Élie. Bonjour Élie.
Ah, bonjour.
Vous êtes
Charlie.
Au Bénin, on vous écoute, Élie.
Oui, salut, je salue le plateau, je salue l'émission. C'est un plaisir pour moi de participer à cette émission depuis le Bénin. J'appelle directement de Fouyabé, depuis le Bénin, et ma question est très simple. Mais j'espère que Marc du Ghana a déjà posé le même problème, mais je vais poser mon problème aussi. Depuis 5 ans, bon, j'essaie d'aller à l'aisselle et qu'est-ce que je retrouve après l'aisselle? Je retrouve du sang sur mon papier hygiénique. Et ça fait que j'utilise plus de papier hygiénique pour nettoyer du sang et du sang. Mais depuis là, je n'ai pas parlé de ça à quelqu'un. J'ai toujours ignoré cela. Mais comme si ça a dû, j'ai suivi l'émission sur Facebook et j'ai voulu participer. Maintenant, je souhaiterais savoir si c'est un symptôme hémorroïdien ou pas.
Et vous avez du sang à chaque fois que vous allez au sel?
Oui, voilà.
Et pourquoi vous n'en avez pas parlé jusque-là?
Bon, comme ça ne me fait pas mal, bon, je me suis dit que c'est banal et voilà.
Et aujourd'hui, c'est effectivement l'occasion, vous avez raison, et Élip, professeur Patrick Atienza.
Oui, alors la douleur dans cette région-là n'est pas toujours un signe de gravité. On peut avoir du sang et rien d'autre, et que ce soit des choses très sérieuses. Voilà. Mais la douleur, ça éclaire, mais c'est pas forcément un critère de gravité.
Mais là, depuis 5 ans.
Alors là, comme vous avez des segments depuis 5 ans, je pense qu'il faut quand même prendre le problème au sérieux, parce que vous n'avez pas de douleur anale, donc ça peut venir effectivement de vos hémorroïdes internes. Ça peut venir aussi de quelque chose de plus haut, donc au niveau du rectum, voire au niveau du côlon. Donc il est de bon ton. Je n'ai pas votre âge sur le.
Quel âge vous avez,
Élie? Fiche. Quel âge avez-vous?
J'ai 28 ans.
28 ans.
28 ans. Donc, à mon avis, la probabilité que ce soit quelque chose de colique, si vous n'avez pas d'antécédent dans votre famille, est peu probable. Surtout si vous n'avez pas de troubles du transit. Mais enfin, il faut vous faire un petit interrogatoire. Et puis, il faut surtout vous examiner cette région-là. Donc, sans faire une coloscopie, on peut faire un toucher rectal, une anuscopie, c'est-à-dire un petit peu comme un spéculum qu'on met dans le canal anal pour bien voir le canal anal et le bas du rectum. Et puis, vous pouvez faire une rectoscopie pour bien voir le rectum. Donc, ça, c'est des examens qui se font bien sûr sans anesthésie et quasiment sans préparation et qui nous éclaireront beaucoup sur l'origine de vos segments.
Là, il est difficile de savoir l'origine.
Ah, je pense qu'il faut consulter, là, oui, parce que ça peut être des choses parfaitement bénignes, je le pense, comme ça peut être quelque chose de plus fâcheux.
Merci Élie pour votre question. Professeur Patrick Atienza, vous évoquiez la question de l'âge. Il y a des tranches d'âge qui sont plus touchées que d'autres.
Bah, la maladie hémorroïdaire, dans sa forme thrombotique, c'est-à-dire dans la crise hémorroïdaire, c'est plutôt une pathologie de l'adulte jeune et de l'adulte. Hein. C'est vrai que passé 70 ans ou 80 ans, probablement que les sphincters anaux sont moins toniques et que le stress, j'espère, dans la vie des gens est moins présent. Et donc la symptomatologie thrombotique hémorroïdaire diminue avec l'âge. Et on l'en voit rarement chez l'enfant, ça peut se voir, mais c'est vraiment très rare et de traitement toujours médical.
C'est alors, plutôt après, entre 30 et 50 ans?
Oui, c'est ça, à l'âge de vie active, à l'âge de vie très trépidante, si je puis dire. Donc là, on risque d'avoir des thromboses hémorroïdaires qui deviennent parfois invalidantes, parce que si les gens en ont plus d'une ou par mois ou même plus, ça veut dire qu'ils sont sur une fesse quasiment 15 à 20 jours par mois. Donc quand vous avez une profession et quand vous avez des tâches à remplir, vous n'êtes pas très bien, quoi.
C'est très inconfortable. Nous sommes en ligne avec Dido à Yaoundé. Bonjour Dido.
Allô, bonjour Charlie.
On vous écoute.
Merci Charlie, c'est ma première fois de participer à l'émission. Je suis concerné par le sujet. Bonjour au docteur. Charlie, je vous dirai qu'un jour je me lève le matin. Je ressens comme une sorte de bouton à l'anus. J'ai essayé d'utiliser le miroir pour essayer de voir. Bref, j'en ai vu une sorte de bouton. Du coup, j'ai paniqué. Je vous mentirai pas. J'ai paniqué. Mais j'ai pris mon courage. Je suis allé voir un docteur qui m'a, je vous dirais en quelque sorte, beaucoup menacé en me disant c'est de la sodomie. Il me l'a dit. Mais je lui ai prouvé par tous les moyens. Déjà, je suis sportif. Je lui ai sorti ma licence de football et tout et tout. C'est là qu'il m'a examiné. Il m'a prescrit des médicaments. J'ai tenu un médicament au nom de pommade hémorroïdaire, quelque chose comme ça. Une pommade qu'il fallait appliquer. J'espère que c'était deux fois par jour. Donc, j'aimerais savoir, donc, demander au docteur, parce que ça me fait surface de temps en temps quand je suis constipé. Ce n'est pas toute l'anus qui est sorti. Je vous dis, c'est comme un point, comme un bouton, une petite partie qui est restée à l'extérieur. J'aimerais donc demander au docteur, puisqu'il a déjà parlé de la cause et tout, j'aimerais donc savoir que faire pour en finir avec, par exemple pour mon cas, pour que cette partie de l'anus puisse ancrer. Le docteur m'a prescrit, il m'a demandé de ne plus boire, de ne pas boire l'alcool et certains condiments, le piment et autres.
Et de ne pas manger de piment.
De ne pas manger le piment, oui. Donc, j'aimerais donc savoir réellement comment y faire pour finir avec, parce que ça reflète sur moi lorsque je suis constipé, par exemple. J'ai des douleurs et j'ai une petite...
Et vous avez ce bouton qui réapparaît régulièrement. Merci Dido pour cette question, professeur Atienza.
Oui, bonjour Dido. J'écoutais bien votre exposé. Le problème, c'est j'ai un petit doute sur un problème purement hémorroïdaire. Si vous parlez de boutons, si vous parlez de douleurs, peut-être que vous avez donc une fissure anale et que vous avez fait une petite infection de cette fissure anale qui explique le bouton, c'est-à-dire une petite fistule. Donc à ce moment-là, c'est un problème infectieux et c'est un problème qui ne peut se traiter que par de la chirurgie. Voilà. Le problème hémorroïdaire, les gens qui viennent avec des hémorroïdes vous disent j'ai une boule anale. Et généralement, la boule va régresser au bout de 4-5 semaines. Tandis que si vous avez un bouton qui revient, surtout s'il y a des suintements, là, c'est peut-être un problème de fistule anale et évidemment, le traitement est tout autre.
Voilà. Et la question de l'interdiction de manger du piment qui revient aussi, qui est aussi une croyance partagée par certains.
Oui, c'est une croyance, oui. Alors le problème des hémorroïdaires, c'est qu'il y a effectivement, chacun a son facteur déclenchant, je dirais. Donc ce qui vient assez compliqué, c'est-à-dire si vous voyez 100 hémorroïdaires, il y en a un qui va vous dire, moi c'est le café, l'autre va vous dire c'est le piment, l'autre va vous dire c'est le restaurant chinois.
L'alcool.
L'autre va vous dire c'est le Bordeaux, l'autre va vous dire c'est le Beaujolais. Donc moi je crois les gens, parce qu'ils ont fait un diagnostic pour eux personnel, et puis surtout ils ont une conduite d'éviction, c'est-à-dire qu'ils enlèvent ça de leur nourriture. Bon, mais c'est pas toujours couronné de succès. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas interdire tout à tout le monde, et qu'il y a tellement de facteurs selon les gens, que, à mon avis, les seules choses prouvées scientifiquement, c'est l'adjonction de fibres qui diminue la maladie hémorroïdaire. Tout le reste, ça reste à prouver.
C'est très individuel.
Et c'est très individuel.
Est-ce qu'il y a des facteurs de risque?
de la maladie hémorroïdaire.
Mm-hmm. On parlait des grossesses potentiellement pour les femmes.
Alors les grossesses, bien sûr, les grossesses avec des thromboses hémorroïdaires surtout, soit en pré-partum, soit immédiatement en postpartum. Sinon, vous avez, je vous dis encore une fois, le stress, c'est indéniable, on peut pas passer à côté quand on fait de la proctologie. Et puis, je vous dis, les troubles du transit, type soit de diarrhée trop fréquente, soit de constipation trop fréquente. Donc, d'où d'avoir un transit absolument régulier et idéal.
Merci Dido pour votre question. Nous sommes en ligne avec Saliou à Conakry. Bonjour Saliou.
Bonjour.
On vous écoute Saliou.
Moi, l'hémorroïde là m'a commencé avec des diarrhées accompagnées de sang. Ça dure même au moins 15 jours. Bon, après, autour de l'anus, il y a une inflammation. L'anus, l'intestin même est sorti. Donc, ça a duré au moins encore 15 jours. Bon, parce que je ne savais pas que c'est l'hémorroïde. Moi, je disais seulement à mes parents que j'ai la diarrhée. Donc, après un mois de souffrance, j'ai expliqué à un vieux, il m'a dit, ah non, c'est l'hémorroïde. Il m'a appelé. Il est parti en brousse là-bas pour m'amener des médicaments traditionnels. J'ai bu. Donc, au bout de ce traitement-là, l'inflammation de l'intestin, ça rentrait même. Donc,
ça apaise un petit peu.
Voilà.
Mais ça ne disparaît pas complètement. Ça peut revenir par crise.
Voilà, ça peut revenir. Quand je mange, par exemple, des avocats ou manger gras, avec, comme par exemple, les viandes de chèvre ou de mouton, comme ça, là, ça revient souvent.
Et vous souffrez de cela depuis combien de temps, Saliou?
Bon, ça a un peu duré. Ça fait même au moins 6 ans.
6 ans que ça revient régulièrement?
Oui, oui.
Merci Saliou pour ce témoignage, professeur Atienza.
Oui, bonjour Saliou. Effectivement, là encore, en écoutant votre histoire, je pense qu'il faut quand même consulter, examiner cette région anorectale chez vous, parce que vous pouvez avoir effectivement, lors des épisodes de diarrhée, vous pouvez avoir une pathologie hémorroïdaire qui se dévoile, mais il existe aussi d'autres maladies, en particulier des maladies inflammatoires, qui peuvent donner de la diarrhée et qui peuvent donner aussi des lésions anopérinéales. Alors, sans vouloir du tout vous inquiéter, mais enfin, il faut éliminer ça impérativement, les maladies inflammatoires, maladies de Crohn, des choses comme ça. Donc, raison de plus pour aller un petit peu plus loin dans votre exploration et pas forcément attribuer tous vos troubles à une maladie hémorroïdaire.
Et ce qu'on voit, c'est que beaucoup de nos auditeurs attendent un certain temps avant de consulter. Ou avant même de parler de ce problème-là, plusieurs années.
C'est un vrai problème. Je crois que le retard diagnostique dans cette région-là n'est jamais bon. Il n'est jamais bon nulle part, mais enfin, en particulier en proctologie, mais même en France, vous avez des gens qui vont d'abord voir le pharmacien, et c'est les pharmaciens qui disent, écoutez, vous n'allez pas mettre de la pommade pendant 3 mois, allez voir quelqu'un. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à franchir la porte d'un proctologue, de gens qui ont l'habitude d'examiner cette région-là, qu'ils font avec tout le discernement qu'il faut, et la patience, et donc qui rétablissent beaucoup de diagnostics.
Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous parlons des pathologies hémorroïdaires, quand les veines qui entourent l'anus et le rectum se dilatent et gonflent de manière anormale, provoquant entre autres saignements, douleurs, une pathologie souvent bénigne mais perçue comme honteuse. Vos questions au 33 1 84 22 75 75, 33 1 84 22 75 75. Et nous allons joindre tout de suite le professeur Mohamed Aye, hépato-gastro-entérologue au CHU de Nouakchott en Mauritanie et également professeur à la faculté de médecine de Nouakchott.
Priorité santé sur RFI.
Bonjour professeur Mohamed Aye.
Bonjour madame Charlie.
Merci d'être en direct avec nous depuis Nouakchott. Est-ce que vous avez beaucoup de patients qui viennent consulter pour des maladies hémorroïdaires?
Je salue tout d'abord professeur Patrick Atienza.
Bonjour.
Et mon confrère, bonjour. Et effectivement, la pathologie du mal est très fréquente. Elle date depuis très longtemps, depuis l'Antiquité. Et bon, on se demande quelle allait être la France si Napoléon avait gagné la bataille de Waterloo, par exemple, ça c'est de l'histoire, parce qu'il avait une thrombose hémorroïdaire et la France avait perdu cette bataille. Actuellement, on a...
Un peu d'histoire dans Priorité Santé.
Oui, mais dans le même domaine, quoi. Effectivement, on a beaucoup de troubles hémorroïdaires.
Et vous avez beaucoup de patients qui viennent vous consulter. À quel stade en général?
Stade un peu plus tardif, surtout au stade, vous savez, au stade 3 et 4 des hémorroïdes, sauf en cas de thrombose hémorroïdaire ou en cas d'hémorragie, on est paniqué ou on est dénoncé par quelqu'un de la famille qui a vu le sang dans les selles parce que ici, ça se passe souvent de bouche à oreille. Elle a pu saigner, mais ce n'est pas grave. Mon grand-père avait saigné, ce n'était pas grave. Et c'est au moment de la panique, pour certains, de la douleur intolérable d'une thrombose, d'un prolapsus, que les gens consultent.
Et on est dénoncé, et... le mot est fort.
Hein. Oui, dénoncé parce que, vous voyez, on se tue. C'est une maladie, pour certains, un peu, pas honteuse, mais un peu, chez les gens âgés, c'est un peu tabou. Donc, on ne préfère pas en parler. Et ces moments, on remarque que sur la selle, il y a du sang, surtout chez les gens âgés. Et quelqu'un, un membre de la famille vient vous dire, voilà, j'ai mon père ou ma grand-mère qui a saigné. Et quand on fait un interrogatoire, si oui, je saigne depuis quelques années, mais ça passe, ça vient. Donc, je n'ai pas eu de... Je ne savais pas que c'était aussi important pour ça. Ou bien un cas d'anémie chronique, les gens qui saignent... Un petit flot de temps en temps, il arrive à faire développer une anémie, et c'est la fatigue, l'asthénie et tout ce qui s'ensuit.
Et vous dites que souvent les patients viennent consulter au stade 3 et 4, c'est-à-dire ?
Oui, c'est-à-dire que les hémorroïdes sont classés en 4 stades. Bon, les hémorroïdes congestives non prolapsées, c'est à l'intérieur. Procédant intermittent, lors de la défécation, ça sort et puis ça rentre spontanément. Et puis, il y a la procédance spontanée et réductible manuellement. Il arrive qu'au troisième stade, ça sort un tout petit peu, il faut réduire avec la main. Et le stade 4, c'est une procédance permanente et réductible. Et le plus souvent, on fait appel à la chirurgie ou bien on fait appel à la ligature dans ce cas.
Donc, ça veut dire que les patients arrivent trop tard, en fait?
Bon, ça dépend peut-être chez nous ici, parce qu'il n'y a pas assez de proctologues ni de gastro qui sont à l'intérieur du pays. Donc, on essaie de faire stopper les symptômes au lieu de voir poser un diagnostic.
Et justement, combien vous êtes de spécialistes dans votre discipline?
Nous sommes une quinzaine, tous pratiquement à Nouakchott, sauf pratiquement
dans la capitale.
Tous à la capitale. Ouais, c'est ça.
Donc hépato-gastro-entérologue.
Oui, exactement, c'est ça. Ouais.
Et quel message vous voudriez faire passer, professeur Mohamed Ayé, sur ce sujet?
Moi, je voudrais passer le message suivant, que toute hémorragie basse n'est pas synonyme d'hémorroïde. Donc, les hémorroïdes doivent être un diagnostic d'exclusion. Donc, parce qu'on a souvent des gens qui viennent un peu tard avec déjà un cancer ou des fistules ou une maladie chronique inflammatoire, qui ne sont pas beaucoup, mais on en envoie quand même. Et ce sont des gens surtout dans certaines éducations sanitaires qui viennent consulter ou la panique. Donc, on fait souvent un syndrome rectal confondu avec des hémorroïdes et on se trouve un cancer du rectum. Banal chez certains. Donc, au cours de vie, parfois un peu avancé.
C'est le message que vous faire passer. De consulter.
Oui, de la consultation rapidement quand il y a une rectorragie basse, une hémorragie digestive basse.
C'est un message que vous partagez, professeur Patrick Atienza?
Oui, tout à fait. Oui. Je pense que les patients doivent consulter dès qu'ils ont un symptôme de cette région. Et j'insiste aussi sur la notion de formation des médecins. et de formation, certes des proctologues à la fois sur le plan médical et sur le plan chirurgical, mais ce qui est assez curieux dans la proctologie, c'est que vous avez plusieurs disciplines qui parfois se mettent à traiter les hémorroïdes, donc vous pouvez avoir des chirurgiens digestifs, vous pouvez avoir des proctologues, vous pouvez avoir des gastro-entérologues, vous pouvez avoir des dermatologues aussi qui de temps en temps, puis vous pouvez avoir des gynécologues qui, profitant d'une certaine proximité...
Donc proctologie, c'est le traitement des maladies anales
de l'anus et du rectum. Proctos, ça veut dire rectum en grec. Donc,
et ça regroupe un grand nombre de disciplines, en fait.
Non, oui, mais à tort, parce qu'il y a des règles dans la proctologie. C'est pas parce que l'œil est un organe facilement accessible que vous avez 4 ou 5 disciplines qui vont faire de l'ophtalmologie, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça s'apprend, il y a des règles, et donc, à la fois, les patients doivent consulter plus tôt, ils doivent consulter des médecins qui sont bien formés et qui ont parfaitement le background, si je puis dire, pour exercer leur art.
Professeur Mohamed Aye, est-ce qu'il y a des proctologues en Mauritanie?
Non, comme vous a dit, non, ça c'est la spécialité. Dans la spécialité, on n'en a pas encore. Comme vous a dit, ce sont les chirurgiens, viscéralistes, les urologues. Tout chirurgien peut faire une consultation, ou même pas une consultation, un traitement d'hémorroïde. On voit des gens qui sont, effectivement, il faut être spécialiste, un proctologue. On voit des gens qui sont opérés d'hémorroïdes et qui finissent par nous faire des sténoses anales. Alors, c'est un peu difficile. Donc, on est en train de dilater, et puis ça pose des problèmes, effectivement.
D'où des efforts, effectivement, de formation dans cette discipline.
Bien sûr. Dans cette discipline, bien sûr.
Merci beaucoup, professeur Mohamed Aye. Je rappelle que vous êtes hépato-gastro-entérologue au CHU de Nouakchott, en Mauritanie, et professeur à la faculté de médecine de Nouakchott.
RFI à Nouakchott, 103.3 FM.
La parole est aux auditeurs aujourd'hui. Nous sommes en ligne avec Lamine à Conakry. Bonjour, Lamine.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Lamine.
Ok. Donc, ça fait à peu près 25 ans.
Alors, la ligne est assez mauvaise, hein, Lamine. C'est pas grave, je vais pouvoir dire, je pense, que la question que vous voulez poser au professeur Atienza. Donc, vous avez des hémorroïdes depuis 20 ans. Aujourd'hui, vous avez 55 ans. Et à chaque fois que vous faites une crise, cela s'accompagne, vous dites, d'hypertension. Y a-t-il un lien entre hypertension et hémorroïdes? C'est votre question pour vous, professeur Patrick Atienza.
Oui, alors quand on est proctologue, la notion d'hypertension, il faut bien différencier l'hypertension systémique, c'est-à-dire la tension artérielle qu'on prend au bras, et puis l'hypertension portale, c'est-à-dire une hypertension qui est créée par une maladie hépatique ou au-dessus ou juste en dessous du foie. Voilà. Alors pourquoi je dis cette différence? C'est parce que la relation hypertension artérielle hémorroïde, elle n'est pas du tout faite. Et je vois pas très bien comment une maladie systémique artérielle pourrait donner un problème hémorroïdaire. C'est pas prouvé. En revanche, quand vous avez une maladie du foie, c'est-à-dire une cirrhose ou d'autres pathologies, vous pouvez avoir une dilatation en amont. Mais à ce moment-là, c'est des veines rectales. Et c'est pas des hémorroïdes, car malgré ce qu'on a pu dire ou entendre ou écrire parfois, les hémorroïdes ne sont pas des veines. Les hémorroïdes sont une formation tout à fait particulière dans l'organisme qui associe des artérioles, des vénules et surtout des chintes artério-veineux. Donc ça n'a rien à voir avec les veines des jambes. Mais donc, si c'est une hypertension artérielle, non, il n'y a pas de relation. Si c'est une hypertension qu'on appelle portale, c'est-à-dire due à une maladie du foie, effectivement, il peut y avoir des dilatations des veines rectales qui peuvent donner des saignements, mais qui ne sont pas, à proprement parler, des hémorroïdes.
Et quels conseils, notamment d'hygiène, peut-on donner pour éviter d'autres poussées hémorroïdaires, quand on a des poussées hémorroïdaires?
Eh bien, écoutez, premièrement, d'avoir un transit idéal, donc manger des fibres, éviter d'avoir des épisodes de diarrhée et de constipation. 2, essayer de ne pas être trop stressé. Et puis, troisièmement, faut bien dire qu'on a encore des grandes inconnues sur l'histoire naturelle de la maladie hémorroïdaire. Pourquoi des gens n'ont pas de problème hémorroïdaire jusqu'à l'âge de 35 ans, et puis brutalement, en 6 mois, les choses se dégradent de façon très rapide, et ils font crise sur crise, et voilà, et c'est vrai qu'il y a probablement des facteurs extérieurs et peut-être des facteurs génétiques, probablement, mais on a encore quelques inconnus.
Justement, on a Alain Kinshasa qui nous demande si les hémorroïdes sont héréditaires, comme le diabète.
Alors probablement, parce que les gens vous disent que leurs parents, leurs frères et sœurs ont des hémorroïdes, il reste que c'est une maladie très répandue, ce serait très difficile de faire une étude qui n'intéresserait d'ailleurs pas grand monde et qui coûterait très cher pour une maladie bénigne, pour prouver le caractère héréditaire des hémorroïdes, si tant est qu'on puisse le prouver.
Alors, autre question sur Facebook qui nous vient de Yingo à Kinshasa. J'aimerais savoir si une femme enceinte atteinte d'hémorroïdes internes peut les transmettre à l'enfant.
Ben, c'est le caractère hémorroïdaire. Alors, le caractère héréditaire, non.
A priori, non.
Je réserve que la notion d'hérédité soit un jour prouvée, ce qui n'est pas sûr, comme je vous l'ai dit. Et je pense qu'il y a effectivement des familles d'hémorroïdaires, mais qu'il y a aussi des grandes inconnues, et c'est pas sûr du tout qu'une femme qui a eu des hémorroïdes pendant sa grossesse, et seulement pendant sa grossesse, parfois, donne naissance à un garçon qui aura une maladie hémorroïdaire. Il aura des hémorroïdes, mais il n'aura pas de maladie hémorroïdaire, forcément.
Salif nous demande depuis Bobo du Lasso, est-ce que les hémorroïdes peuvent être à l'origine de l'incapacité à faire un enfant ?
Pas du tout.
Encore une fois, on n'a pas de lien entre l'appareil génital.
Non, pas du tout. La maladie hémorroïdaire, c'est une maladie, je dirais, autonome. Hein, très gênante, mais autonome. Et il n'y a aucun rapport avec la fertilité.
Ni avec l'impuissance sexuelle, comme c'est soulevé par...
Non,
par
ni avec l'impuissance sexuelle, hormis le fait que ça touche le pelvis, et donc quand il se passe quelque chose dans le pelvis, généralement, la fonction sexuelle peut être un peu perturbée.
Alors, quels sont, professeur Patrick Atienza, les nouveaux traitements étudiés, notamment pour les hémorroïdes internes ? On parle d'une technique qui utilise la radiofréquence pour les traiter ?
Oui, enfin, je crois qu'on cherche en permanence des techniques nouvelles, mais je pense que maintenant, il y a eu un bouleversement durant ces 20 dernières années, ce qui s'appelle l'intervention de l'ongo. C'est-à-dire, en gros, c'est une intervention qui se fait par voie naturelle, avec une pince particulière, qui permet non pas d'enlever les hémorroïdes, mais de les lifter, c'est une espèce de lifting interne, et qui permet donc de couper une partie de leur vascularisation. Donc c'est une très bonne intervention, qui se fait sans trop de douleur et qui se fait surtout dans la journée. C'est une intervention qui doit répondre à des critères très précis, c'est-à-dire des hémorroïdes grade 3, comme nous décrivait notre
professeur Mohamed Ali.
Voilà. Et les hémorroïdes grade 3 où les gens se plaignent essentiellement de prolapsus, c'est-à-dire d'hémorroïdes qui sortent et qui rentrent, à ce moment-là, c'est une excellente intervention. Pour le reste, vous avez toujours les ligatures congélation et la radiofréquence, mais qui n'a pas apporté une révolution.
Et cela dépend effectivement de la personne, du stade où elle en est.
Ah, ça dépend bien sûr de la localisation. Est-ce que c'est une maladie hémorroïdaire circonférentielle ? Est-ce que c'est localisé ? Est-ce que c'est seulement les hémorroïdes internes ou les hémorroïdes internes et externes ? Ou seulement les hémorroïdes externes ? Voilà. C'est-à-dire que d'où l'importance d'avoir un traitement adapté à sa pathologie hémorroïdaire, un traitement, je dirais, à la carte, et donc les traitements un petit peu généralistes pour l'individu doivent être très adaptés.
D'où l'importance, on y revient, de consulter dès que possible.
Toujours.
Merci, professeur Patrick Atienza. Vous restez avec nous. On va parler tout de suite des rencontres Africa 2018 qui se tiennent en ce moment à Paris, au Palais des Congrès, avec un accent mis sur les problématiques de santé pour développer l'offre de soins sur le continent.
Priorité santé sur RFI.
Bonjour, docteur Franck Mansour Adeoti.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université d'Abidjan. Vous dirigez le Bureau Régional Afrique au sein du Réseau International pour la Planification et l'Amélioration de la Qualité et de la Sécurité dans les Systèmes de Santé en Afrique. Alors, quel est l'objectif de ces rencontres Africa, dont la troisième édition là, se tient depuis hier au Palais des Congrès à Paris ?
Je vous remercie. Il faut savoir que ces rencontres Africa sont à leur troisième édition. Les premières se sont tenues en Côte d'Ivoire, à Abidjan, en 2016, et on ne parlait pas de santé. L'innovation de 2018 à Paris, c'est de parler de santé et de mettre la problématique générale de la santé en Afrique et surtout de la santé digitale au cœur des préoccupations, car il s'agit d'une question d'actualité qui touche au sein d'intérêt de tous nos dirigeants et tous les acteurs de l'écosystème sanitaire en Afrique.
Alors la santé digitale, la santé numérique ou l'e-santé, hein, ça a plusieurs noms. Qu'est-ce que vous entendez par là, très concrètement?
Selon l'OMS, la santé digitale, ça regroupe vraiment l'ensemble des moyens et des outils qui sont utilisés sous le monde, des modalités offrant un maximum de rapports ou efficacité pour appuyer les actions de santé. Il s'agit d'un thème global hein, qui regroupe des concepts tels que la télé-santé, la télé-expertise, la télé-apprentissage, jusqu'à la téléphonie mobile avec ses usages, le tout étant d'aider à améliorer la prise en charge des patients, à réduire la fracture géographique hein, en termes d'accessibilité que connaît la plupart de nos pays et être vraiment un outil de communication et de performance de notre système de santé.
Et est-ce que vous avez des exemples d'applications en termes de santé qui ont pu être données d'ailleurs pendant ces rencontres?
Oui, vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, l'Afrique bouillonne d'initiatives et d'interventions dans le domaine de la e-santé. J'en ai pour preuve, par exemple, en Côte d'Ivoire, nous avons le projet e-banque de sang, où grâce à des applications mobiles, on peut, sur l'ensemble du territoire, connaître la disponibilité en poche de sang pour que, dans les situations d'urgence, on puisse avoir accès à cette poche de sang. Nous avons toujours en Côte d'Ivoire le projet vaccination électronique, qui permet le rappel des dates de vaccination aux mères, temporelles même au cours de la période prénatale, ou pour leurs enfants, une fois que l'accouchement a eu lieu.
Pour les suivis de grossesse aussi?
Pour les suivis de grossesse, tout à fait. Et même pour le suivi des vaccinations du nouveau-né. Parce qu'il y a tout un programme de vaccination élargi que nos pays disposent et pour lequel il faut vraiment que les mères soient attentives. Et comme vous savez qu'en Afrique, nos parents sont souvent pris à des tâches ménagères, parfois elles peuvent oublier. Donc cette application permet donc à ces mères-là de se souvenir des dates et éviter donc la survenue des complications telles que la poliomyélite ou autre rougeole qui est due au fait que les vaccinations n'ont pas été bien prises.
Et donc souvent grâce au téléphone mobile?
Exactement, exactement. Nous avons par exemple aussi, dans le même sens au Bénin, Call for Health, qui est une application qui est développée, qui permet aux femmes enceintes de savoir exactement qu'est-ce qu'il y a à faire et en cas de problème et d'appeler un centre de référence le plus proche pour une meilleure prise en charge. En effet, vraiment, ces outils-là nous permettent vraiment en temps réel de suivre nos patients, même aussi, également d'être en contact avec les agences de santé communautaire qui sont nos relais dans les régions les plus reculées pour leur donner des informations en termes de prévention, de promotion et même de conduite à tenir. Voilà. Et donc, vraiment, c'est vraiment toute une possibilité que nous offrons grâce à la e-santé de faire progresser nos systèmes de santé.
Et justement, en quelques mots, quels sont les grands défis à relever sur le continent dans ce domaine-là en termes d'e-santé?
En termes d'e-santé, le grand défi au jour d'aujourd'hui, c'est d'abord le défi institutionnel. Quel cadre réglementaire approprié au développement de la e-santé? La plupart des pays ne disposent pas encore de stratégie nationale de la e-santé. C'est aussi des défis stratégiques. Avec quels partenaires et avec quelle vision nous voulons développer cette e-santé en Afrique? Car il faut savoir que le vrai enjeu aujourd'hui, c'est que l'Afrique ne rate pas la révolution digitale. Nous avons raté la révolution industrielle dans les années 60. Aujourd'hui, avec le fort taux de pénétration de la téléphonie mobile dans nos contrées et le bouillonnement des start-up qui proposent des solutions dans tous les circuits de prise en charge des patients, nous pensons que le volet stratégique peut porter donc cette transformation.
Et l'Afrique serait en matière de santé le laboratoire du futur. C'est l'une des affirmations de ces rencontres Africa 2018. Merci docteur Franck Mansoura Deoti. Je rappelle que vous travaillez au sein du réseau international pour la planification et l'amélioration de la qualité et de la sécurité dans les systèmes de santé en Afrique. Et bon courage pour ces rencontres Africa qui s'achèvent aujourd'hui. Merci également professeur Patrick Atienza d'être venu dans notre studio. Merci. Et d'avoir répondu aux nombreuses questions de nos auditeurs. Pierre. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé, Didier Bleu, Ophélie Lassène, Assetoussa Maquet, Baptiste Madinier et Laurence Snow. Merci aussi à tous pour votre écoute, vos questions, vos témoignages. Demain, vous retrouverez Caroline Paré. Comment bien choisir sa contraception, préservatif, pilule, stérilet, implant, quel accès à ses moyens de contrôle de sa grossesse dans les pays du Sud.
Priorité Santé avec Sono Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sono Assurance, notre métier, l'assurance.